vous allez voir que Dieu existe. Hein? Vous allez regarder un bébé qui vient de naître et vous savez, Dieu existe, n'est-ce pas? Vous avez juste à vous regarder dans le miroir, dans le fond, et vous allez voir que Dieu existe. C'est pas par hasard. Hein? C'est pas par hasard que nous sommes ici. Il y a un créateur qui a tout créé. Mais il faut croire que Dieu existe, et il faut croire aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut croire que Dieu existe, mais que Dieu est bon. S'il y a une chose dont le monde a besoin, c'est de savoir que Dieu est bon. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu existe, mais ils pensent que Dieu est méchant. Ils voient toutes les mauvaises affaires qui arrivent dans le monde et ils ont été mal enseignés. Des personnes qui vont dire, mais tu sais, Dieu est souverain. Est-ce que Dieu est souverain? Oui, il est souverain. La Bible en parle. Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, Dieu a délégué son autorité à l'homme. Il a dit à Adam et à Ève de prendre soin de la planète, de prendre soin de la terre, de dominer ici sur la terre. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu a donné le pouvoir de choisir aux hommes. On n'est pas des robots qui sont obligés de suivre. Nous ne sommes pas des personnes qui sont obligées à faire exactement ce que Dieu veut qu'on fasse. Est-ce que vous savez que c'est vrai? Est-ce qu'il y a des gens que... Je veux juste que vous sachiez, mais je n'ai pas planifié de dire cela, mais il y a des personnes qui sont convaincues que tout ce qui se passe sur la terre, c'est la volonté de Dieu. Tout. Mais laisse-moi vous dire que tout ce qui se passe sur la terre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand un enfant est abusé, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord? Quand une personne est volée ou quelqu'un commet un meurtre, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a inspiré cela? Est-ce que c'est Dieu qui a inspiré les guerres? Est-ce que c'est Dieu qui a inspiré toutes les horreurs qu'on voit sur la planète Terre? Non. On sait que nous avons un adversaire, le diable. On sait que le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé les yeux des gens pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Jésus-Christ. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu a donné le pouvoir du choix à chaque homme et à chaque femme. Nous sommes les libres arbitres. Et on peut choisir d'écouter Dieu, d'obéir à Dieu, ou on peut choisir de résister Dieu et de désobéir à Dieu. C'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, Dieu a dit, je mets devant vous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisissez la vie. On a le pouvoir de choisir. Amen. Mais il y a beaucoup de personnes qui, si vous ne comprenez pas cela, vous allez penser qu'à chaque fois qu'une chose arrive, vous allez penser que c'est Dieu qui le fait. Il faut être capable de distinguer entre les œuvres de Dieu et les œuvres de Satan et les œuvres des êtres humains. Amen? Quand c'est bon, Jacques chapitre 1 nous dit clairement, tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, du Père de lumière. Hein? Jésus a dit, qui entre vous, si votre fils demande du pain, tu vas lui donner une pierre. Si il demande avoir un poisson, tu vas lui donner quoi? Vous vous rappelez? Un serpent. S'il demande un œuf, tu vas lui donner un scorpion. Il a dit, non, ça c'est ridicule. Il n'y a aucun papa qui est un bon papa sur la terre qui va donner un scorpion au lieu d'un œuf. Maman, j'ai faim. Est-ce qu'on peut avoir des œufs aujourd'hui? Oui. Et puis, scorpion dans l'assiette. Ha, 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 ha. Jésus a dit, si vous étant méchant, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison votre Père Céleste, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Donc, on parle de la foi. Et la foi, ce n'est pas une formule. Ce n'est pas juste dire des bonnes paroles au bon moment. Mais la foi, c'est une relation avec papa. La foi, c'est de savoir que papa existe et de savoir que papa est un rémunérateur, qu'il est bon et il veut me donner des bonnes choses. Et c'est pourquoi j'ai viré un peu à gauche ici en parlant de la souveraineté de Dieu, parce qu'il y a des personnes qui ont de la misère à comprendre et à croire que Dieu est bon et qu'il est un rémunérateur, parce qu'ils pensent que tout ce qu'ils voient sur la terre, c'est Dieu. Et c'est difficile Quand vous êtes dans cet état, on voit les meurtres, on voit les vols, on voit la misère, on voit la souffrance dans le monde. Et puis on pense que c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu à faire confiance en Dieu de même, n'est-ce pas? Parce que qui sait, peut-être lui, je vais être la prochaine victime. Peut-être il va vouloir démontrer son amour. Il y a la religion, même dans cette province, enseigne que plus Dieu vous aime, plus Dieu va vous faire souffrir. N'est-ce pas vrai? Oh, tu dois vraiment aimer de Dieu parce que tu as tellement souffert. Laisse-moi vous dire, oh, ça m'enrage. Ça m'enrage. Il y a une colère sainte qui s'élève dans mon cœur parce que c'est pas la vérité, c'est un mensonge qui garde les personnes dans la prison et dans les ténèbres. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est bon. Il est un bon père. Est-ce qu'il va discipliner ses enfants? Oui, mais pas comme quelques en enseignent. Est-ce qu'il va nous corriger? Oui, un bon père va toujours corriger, châtier ses enfants, n'est-ce pas? Mais pas avec la souffrance comme enseigné par quelques-uns. Donc Dieu est bon, Dieu existe, il est un rémunérateur. Et sans avoir cette conviction, vous ne pouvez pas faire plaisir à Dieu. Si vous n'êtes pas convaincu que Dieu existe et que Dieu veut vous rémunérer, vous ne pouvez pas lui faire plaisir. Ça fait pas plaisir au cœur de papa quand il voit ses enfants prendre la fuite devant lui, n'est-ce pas? Si mes enfants s'approcheraient de moi comme ça, mais papa, est-ce que j'ose poser une question? Est-ce que je peux oser te demander quelque chose? Et ils ont peur parce qu'ils savent pas si je vais dire oui ou si je vais les taper sur la tête. Ça ferait pas plaisir à mon cœur, ça m'attristerait. Est-ce que vous serez attristé de voir vos enfants agir de même? Vous aimeriez mieux voir vos enfants arriver avec confiance en disant, papa, je t'aime et puis j'ai quelque chose à te demander. Ça fait plaisir à notre cœur de voir nos enfants s'approcher de nous avec confiance. Et on a parlé de ça il y a quelques semaines. La foi, tout d'abord, est une ferme confiance. On dit une ferme confiance. Donc, la foi, premièrement, est une ferme confiance. J'ai confiance que Dieu m'aime, j'ai confiance que Dieu existe, j'ai confiance que Dieu est un rémunérateur. OK? Deuxièmement, on a vu que la foi, c'est une manière de posséder les choses qu'on espère déjà par avance. Qu'on peut croire avoir reçu des choses même avant de voir ces choses se manifester. Vous vous rappelez, on a parlé d'une personne qui veut commander un livre sur l'Internet. Il va aller sur Amazon.ca, il va trouver le livre qu'il veut, il va checker voir si c'est disponible, et oui, ah, c'est dans le catalogue, c'est disponible, ils vont placer la commande, ils vont prendre le numéro de confirmation, ils vont cliquer sur le bouton, et puis ils vont aller parler avec tout le monde en disant, hey, j'ai acheté un livre aujourd'hui, j'ai un nouveau livre, où est ton livre? Mais je ne l'ai pas encore reçu. Physiquement, mais c'est à moi. J'ai un numéro de confirmation. Et la foi, c'est une confiance, mais c'est une manière de... On peut par la foi demander les choses, et avant de les voir, on croit avoir reçu ces choses. En fait, si vous regardez dans vos notes, c'est dans la parole vivante, Hébreux chapitre 11, verset 1. Et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance. On dit la foi est une ferme confiance. Amen. C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère, et c'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et ça, c'est un troisième aspect de la foi qu'on veut souligner aujourd'hui. C'est que la foi est une ferme confiance. La foi est une manière de posséder les promesses de Dieu avant de les voir, mais la foi aussi, c'est être absolument certain. Tout le monde dit absolument. Aucune doute. Je sais que je sais que je sais que je sais. La foi, c'est d'être sûr et certaine absolument de ce que vous ne voyez pas. Est-ce que quelqu'un peut voir l'oxygène dans l'air aujourd'hui? Est-ce que vous êtes certain qu'il y a de l'oxygène dans l'air? Qui est certain? Je suis sûr. Hein? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont certaines d'avoir un pancréas aujourd'hui? Je ne l'ai jamais vu, mais je sais que c'est là! Je suis absolument certain. Il y a des personnes qui sont sûres d'avoir un cerveau. Est-ce que vous avez vu votre cerveau? Est-ce que votre entourage a vu le fruit de votre cerveau? Non. Est-ce qu'il y a une évidence? Non. On plaisante, j'avais juste besoin de me réveiller un peu. La parole de Dieu enseigne l'importance d'être absolument certain de ce qu'on ne voit pas. Un chrétien qui fait plaisir à Dieu, c'est un chrétien qui croit plus à l'invisible que à ce qu'il voit avec les yeux. 2 Corinthiens 5:7 dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Et si vous voulez aller avec moi à Jean chapitre 20, on va juste commencer ce matin en vous montrant deux exemples de deux hommes différents. Un homme qui avait une foi, on pourrait dire naturelle et humaine, qui était basée sur qu'est-ce qu'il était capable de voir et ressentir avec ses cinq sens physiques, et la foi d'une autre personne qui se basait seulement et uniquement sur la parole invisible de Dieu. En Jean chapitre 20, ici on a l'histoire de Jésus avec ses disciples après la résurrection. Vous vous rappelez de l'histoire, il s'est apparu à ses disciples, plusieurs, sauf que Thomas n'était pas présent. Et quand ils sont allés voir Thomas pour dire que, nous avons vu le Seigneur, Thomas ne voulait pas croire. Pourquoi? Parce que Thomas n'avait pas vu. Et Thomas a dit quelque chose ici. Et si on regarde Jean chapitre 20, verset 25, par exemple, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Est-ce qu'il y a des chrétiens comme ça aujourd'hui? Hein? Peut-être vous croyez que Jésus est ressuscité, mais quand on vous déclare que Dieu vous aime, que Dieu, par exemple, par les mains précieuses de Jésus, vous avez été guéri, mais si je ne vois pas, je ne croirai pas. On dit que les miracles ne sont pas juste pour les apôtres, mais les miracles sont pour aujourd'hui. Mais si je ne vois pas, je ne croirai pas. Mais aujourd'hui, je vous dis, si vous ne croyez pas, vous ne verrez pas. C'est pas un grand mystère pour moi de savoir qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises qui ne voient jamais des miracles. C'est parce qu'ils ne croient pas aux miracles, ils ne prêchent pas des miracles, ils n'enseignent pas ce que la Bible dit, donc le peuple ne sont pas dans un état de foi pour recevoir. N'est-ce pas? Encore. Lisez votre Bible et vous allez voir que qu'est-ce que je dis, c'est vrai. Verset 26 dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient enfermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets la main dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Mais Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux, ou on peut dire béni, souvent le mot béni, heureux, c'est la même chose. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux. Est-ce que vous voulez être heureux dans la vie chrétienne? Il faut croire avant de voir. Amen. Mais dès que je vois, je vais croire. Vous ne verrez jamais. Mais dès que vous croyez, vous allez voir. Amen. Je dis dès que. C'est-à-dire qu'il faut croire. Et comme j'ai dit la semaine passée, des fois, il faut traverser le pont de la patience avant de voir la manifestation. Il faut croire avoir reçu, et puis plus tard, on va voir la manifestation. C'est comme ça que ça marche dans la parole de Dieu. Donc là, on voit que la foi de Thomas, c'était une foi basée sur les cinq sens. Il faut que je voie, il faut que je touche, il faut que je fasse ceci et cela. Aujourd'hui, on voit ici que dans la foi, dans le cas de Thomas, il avait une foi basée sur qu'est-ce qu'il voyait. Qu'est-ce qu'il pouvait toucher, qu'est-ce qu'il pouvait sentir et ressentir, ok? Mais il y a un autre homme qui est mentionné dans les Écritures qui s'appelle Abraham. Et on peut regarder. C'est bon, le Seigneur est bon. Amen. Regardons Romains chapitre 4, verset 17. Selon ce qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et il est notre père devant celui auquel il a cru. Ça parle d'Abraham. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Regardez-moi dans les yeux juste un instant. Dieu, notre Père, il appelle les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient déjà. Dieu n'attend pas à voir quelque chose avant de dire qu'il est tel. Il est comme ça. Dieu a dit que la lumière soit avant que la lumière fût, et puis la lumière fut. Amen. Imaginez si Dieu, avant de créer le monde, dit, bon, mais si je peux voir la planète Terre, je vais croire que je vais être capable de la créer. Mais moi, je vois rien. Mais Dieu est un Dieu de foi. Donc, Dieu savait qu'il était capable de créer le monde et la terre. Et donc, il a dit, bon, que. Et ça fut. C'est un Dieu de foi. Et Dieu a créé toutes choses. Par la foi, on va voir cela tantôt. Mais il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut. Abraham crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Voyez-vous la différence entre Thomas et Abraham? Thomas dit, à moins que je voie le trou dans sa main, à moins que je mette mon doigt dans le trou, à moins que je mette ma main dans son côté, à moins que je voie, je ne croirai pas. Et Abraham, il a dit, bon, dans le fond, qu'est-ce que je vois? C'est un vieux monsieur, pas capable de faire les enfants. Mais il n'a pas regardé le naturel, il n'a pas était influencé par le physique, il était influencé seulement et uniquement par qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole. Et Dieu a dit, je ferai de toi le père d'une grande nation. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Quelle promesse est-ce que Dieu t'a fait? Quelle promesse est-ce que tu as lu dans sa Bible? Est-ce qu'il y a des promesses que tu as vues? Et tu dis, ok Seigneur, mais dès que je vois ça, je vais le croire. Vous ne verrez jamais. Vois-tu, le truc, c'est de voir qu'est-ce que Dieu a promis d'y croire, et ensuite tu vas voir. Amen? Il continue, il considéra point son corps qui était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction. La foi, c'est une pleine conviction, une pleine confiance, n'est-ce pas? Que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Donc, vois-tu, Thomas qui dit, si je vois, je vais croire. Abraham qui croyait, et ensuite il a vu. Votre foi aujourd'hui, est-ce que c'est un foi de Thomas? Est-ce que c'est un foi d'Abraham? Est-ce que vous voulez voir des grandes choses? Il faut croire les grandes choses. En fait, Abraham, il a tellement cru. La Bible dit, Paul a dit aux Corinthiens, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. On voit que la foi est souvent relâchée par les paroles de notre bouche. Si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut croire que Jésus est venu. Moi, j'ai jamais vu Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Jésus avec les yeux physiques? Moi, j'ai jamais vu Jésus. J'ai même pas eu une vision de Jésus. Jamais. Mon grand-père a eu une vision de Jésus. Comme Saul de Tarse a eu une vision de Jésus. Mon grand-père, un jour, a eu une vision de Jésus. Il n'était pas encore sauvé. Il venait de faire faillite. La commerce était cassée. Il était un homme détruit. Il ne savait plus quoi faire. Ma mère était à l'église en train de prier pour lui avec tout un groupe de prières. Et ma mère intercédait et priait pour mon grand-père parce qu'on habitait avec lui à l'époque. Et à chaque soir, lui, il était un homme qui sortait avec sa bouteille pour aller à ses fonctions sociales. Il avait une belle boîte pour une belle bouteille de whisky ou quelque chose. Il sortait à chaque soir et quand il entendait qu'on allait à l'église, il nous méprisait. Mais cette journée-là, ma mère était en train de prier et là, mon grand-père levait ses yeux et voyait sur le stationnement une vision de Jésus avec ses bras grands ouverts. Il a fondu. Il a pris son auto, il est allé à l'église à vitesse. Ma mère était en train de prier en langue pour mon grand-père. Elle ouvre ses yeux et voit son papa arriver à l'église. Ils viennent pour être sauvés, il était baptisé du Saint-Esprit. Oh Dieu. Ça, c'est juste une autre histoire. Ça arrive des fois, mais moi, ça fait longtemps que je suis chrétien, depuis l'âge de 9 ans, j'ai jamais vu une vision de Jésus. Et j'en ai même pas besoin. C'est pas un besoin. J'ai jamais vu un ange. Je n'en ai pas besoin. Mais je crois. Et parce que j'ai cru, j'ai confessé avec ma bouche que Jésus est le Seigneur. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, s'il dit et s'il ne doute pas dans son cœur, vois-tu qu'est-ce qu'on croit dans le cœur et qu'on dit avec la bouche? C'est comme ça que la foi est activée dans notre vie. Et quand Dieu a dit à Abraham, je vais faire de toi le père d'une grande nation, une des premières choses que Dieu a fait plus tard, il a changé le nom d'Abraham. Abraham de Abraham, le père d'une grande nation. Et à l'époque, un nom était quelque chose d'important. À l'époque, quand quelqu'un qui s'appelait quelque chose, il y avait une signification. Et à chaque fois qu'il se présentait, à qui que ce soit, il disait, et n'oubliez pas, il a 100 ans. Salut, je suis le père d'une grande nation. Ah oui, vous avez combien d'enfants? Mais dans le fond, Sarah et moi, on n'a pas d'enfants, mais j'ai eu petite aventure avec ma servante, on a un gars, mais je suis le père d'une grande nation. OK, ça a l'air fou, n'est-ce pas? Mais pendant des années et des années et des années et des années, il appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient déjà. Il n'a pas dit, peut-être un jour je vais devenir le père d'une grande nation. Peut-être un jour. Il a dit, je suis le père d'une grande nation. C'est pourquoi une personne qui est malade et qui a la conviction, qui voit dans les Écritures les promesses de Dieu. Est-ce qu'il y a des malades parmi vous qui appellent les anciens de l'Église, qui prient pour lui en loignant de l'huile, et la prière de la foi sauvera la malade. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Personne qui agit sur cette parole et qui reçoit la prière de la foi peut dire, merci Seigneur, que par ton maîtrisseur, j'ai été guéri et je suis guéri. Mais tu as l'air malade. Ça fait rien. Abraham avait l'air d'un un vieux monsieur qui n'avait pas d'enfant. Mais tu as l'air d'avoir encore des symptômes. Ça ne change rien. Dieu a dit, telle chose, j'y crois, fin de l'histoire. Amen. On appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et je sais qu'il y a plusieurs entre vous maintenant, vous dites, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il faut comprendre ici. Vous savez qu'on peut avoir des doutes dans notre tête et croire dans notre cœur? Amen. On va continuer ici. La foi d'Abraham versus la foi de Thomas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour marcher par la foi et non par la vue? Il y a trois choses qu'on a besoin de faire qui vont nous aider. Premièrement, rappelez-vous que tout ce que nous voyons fut créé par l'Esprit. On sait que tout est créé par la parole, mais Jésus dit, mes paroles sont esprit et vérité, n'est-ce pas? Vous savez qu'on a plusieurs dimensions dans la vie. On a une dimension physique. On a une terre physique. On a du bois franc sous nos pieds. On a des vêtements sur notre dos. On a la chair sur nos os, n'est-ce pas? Et on peut voir ces choses. On peut sentir ces choses, on peut toucher ces choses, on peut goûter ces choses. On a 5 sens dans ce monde naturel, on peut contacter ce monde physique. Mais le problème, c'est que même dans l'Église, la plupart des chrétiens sont plus portés à regarder et être influencés par cette dimension physique que d'être influencés par les dimensions spirituelles. Et la réalité, dans la plupart des têtes des chrétiens, ils pensent que ça c'est vrai, ça c'est réel. Comme Thomas, si je vois, si je touche, je vais croire. Parce que ça, c'est des vraies choses. Mais savez-vous qu'on a besoin d'une révélation, que tout ce que nous voyons avec les yeux physiques est le résultat de l'esprit. C'est quoi qui vient en premier, l'esprit ou le physique? C'est l'esprit. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous me suivez ce matin, mais qu'est-ce que je dis est important. Parce que sinon, vous allez toujours passer votre vie comme Thomas. Vous avez un besoin, vous priez et vous regardez tout de suite les symptômes, le physique, les circonstances, et vous dites, ah bon, ça n'a pas fonctionné. Tandis que Dieu veut que vous appreniez à dire, Seigneur, peu importe qu'est-ce que je vois dans le naturel, le monde de l'esprit est encore plus réel que le monde physique. Regardons la référence que j'ai mise dans vos notes, Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Quand vous avez une révélation que le monde invisible de l'esprit est encore plus puissant et plus durable et plus réel que le monde physique, ça va vous libérer et votre foi va grandir et votre foi va devenir inébranlable. Amen. C'est plus réel. C'est plus vrai, on pourrait dire. Le monde de l'esprit, qu'est-ce que je ne vois pas? Tout ce que je vois vient de l'invisible, de la parole de Dieu. Numéro 2, laissez-vous influencer par l'invisible et non pas par la visible. Savez-vous, si vous vous laissez influencer par ce qui est visible, vous allez manquer les bénédictions de Dieu. Est-ce que vous êtes encore là ce matin? Regardons le verset. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point, et souligne ce mot regardons, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Donc, posez-vous la question avec honnêteté. Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu. Est-ce que vous êtes un chrétien qui est plus apte à croire ce que vous voyez? Ou est-ce que vous êtes un chrétien, une chrétienne qui est plus apte à croire ce que vous ne voyez pas? Pour vous, si ce que vous voyez contredit ce que vous ne voyez pas, qu'est-ce que vous allez croire? Un chrétien qui n'est pas enraciné dans la foi va se laisser influencer par le visible. Ils vont dire, mais de toute évidence physique, ce que Dieu a dit, sa parole invisible, n'est pas vrai dans ma vie. De toute évidence, ça n'a pas marché. De toute évidence, je vais mourir. De toute évidence, je vais échouer. De toute évidence. Quelle évidence est-ce que vous regardez? Quelle évidence est à l'influence dans votre vie? Est-ce que c'est des choses physiques? Encore, une personne qui reçoit la prière pour la guérison. Je donne ça ce matin comme exemple plusieurs fois. Et puis, on reçoit la prière, mais on a encore des douleurs, des symptômes dans notre corps. On dit, de toute évidence, ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi d'être guéri. Quelle parole croirez-vous donc? Quelle parole? Dieu a dit aux enfants d'Israël d'aller et de prendre possession de la terre promise. Les espions ont été envoyés. Les espions entrent dans la terre promise. Et 10 de ces espions ont dit, de toute évidence, Ça ne va pas fonctionner quand les villes sont... Quand les géants sont dans la terre, sur la terre. Dieu voulait qu'ils soient dans la terre. De toute évidence, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux et nous étions comme des sauterelles à nos yeux, à nos propres yeux. Ils se laissaient diriger, influencer par la vue. J'ai vu un géant, j'ai vu une ville fortifiée. Mais qu'est-ce que Caleb a dit? Hein? Qu'est-ce que Josué a dit? On y va, nous sommes capables. Nous allons en emparer de cette vie. On est capable, on y va. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit, chaque place où foulera le pied, la plante de votre pied, je te l'ai donné déjà. Dieu avait déjà donné la terre promise. Oui, il y a des géants. Oui, il y a des obstacles. Oui, il y a des ennemis. Oui, il faut les chasser. Amen? Mais la foi ne se laisse pas influencer par la vue. Comme un homme de Dieu a dit, je ne suis pas bougé par ce que je vois. Je ne suis pas bougé par ce que je ressens. Je suis seulement bougé par ce que la parole de Dieu dit. Il faut que vous soyez comme ça. Peu importe qu'est-ce que je ressens. Peu importe qu'est-ce que je vois. Peu importe qu'est-ce que les autres disent. Peu importe qu'est-ce que les circonstances démontrent. Dieu a dit une telle chose. Point final. J'y crois et j'y vais. Et laisse-moi vous dire, ça marche. Ça marche. Donc, numéro 2, laissez-vous influencer par l'invisible et non pas par la visible. Et numéro 3, fixez vos yeux sur la rémunération et tenez-vous ferme. La rémunération. Verset 25 de Hébreux 11 dit ceci. Et ça parle de Moïse. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. C'est mon distance d'être effrayé. Il y a quelque chose là pour vous ce matin. Des fois, le Seigneur va vous donner une promesse, il va vous demander d'y croire. Et l'ennemi va essayer de vous effrayer. Il va essayer de vous faire peur par les circonstances, par les symptômes, par toutes sortes d'évidences naturelles. Il va essayer de vous dire que ce n'est pas vrai la parole de Dieu. Sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Voyez-vous juste les choses visibles ou voyez-vous ce qui est invisible? Car ce qui est invisible est encore plus réel. La parole invisible de Dieu. En fait, on a lu ce qui est invisible est éternel. Ce qui est visible est passagère. Une chose que j'ai réalisée. Dieu a dit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Ça, c'est une parole, une promesse qui est promise à tous ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et cette parole est établie pour l'éternité dans les cieux. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que même si j'ai un problème financier et que je passe par un moment où les choses sont serrées et j'ai des factures devant moi, j'ai eu une révélation un jour que mon problème et même la facture devant mes yeux est passagère. Et peu importe ce qui arrive avec ma situation, ça ne changerait jamais la parole éternelle de Dieu qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Une personne qui a une maladie dans son corps La maladie est passagère. Si la personne a la foi, la personne peut recevoir la guérison. Si la personne, pour une raison quelconque, ne reçoit pas la guérison et la personne meurt de sa maladie, la maladie est passagère de toute façon, n'est-ce pas? Mais la parole éternelle de Dieu qui dit que par les mains précieuses de Jésus, nous avons été guéris, ne change jamais. Une personne qui est perdue, qui n'a pas accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, sa vie sur la terre est passagère. Mais le fait que Jésus est maître et Seigneur de l'univers, c'est éternel, n'est-ce pas? La parole qui dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, c'est une vérité éternelle que si la personne reçoit ou si la personne rejette Jésus, ça ne changerait jamais la promesse de Dieu. Et c'est là où on a besoin. La foi est capable de voir l'invisible et de tenir ferme, peu importe qu'est-ce qui se passe. Je m'en souviens, quand Tania était enceinte avec Michael, et les médecins ont dit que Michael va mourir. Il ne va pas. Je te donne 50% de chance de sauver ce bébé. Ils ont fait 2 échographies, des prises de sang, qui ont confirmé à 3 reprises que le bébé était mort dans le ventre de maman. Et je m'en souviens d'avoir prié. Et je m'en souviens même d'avoir dit, « Seigneur, je sais que ce n'est pas ta volonté pour les femmes de perdre leur bébé, parce que ta parole le dit. Ce n'est pas ta volonté. » Et Seigneur, je m'en souviens, on était en France à l'époque, je me promenais sur le balcon, sous les étoiles, et je parlais à mon père. Et mon cœur était angoissé, parce que je ne savais plus comment prier, parce qu'on ne pouvait pas, ce n'était pas une guérison là, le bébé est mort, on avait besoin d'un miracle. Donc, je sais, et qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? J'ai dit, Seigneur, une chose que je sais, c'est que tu es bon. Une chose que je sais, c'est que c'est ta volonté que ton peuple soit en santé et qu'on ait la victoire. Si, pour une raison quelconque, on n'a pas eu la victoire cette fois-ci, je sais que ce n'est pas de ta faute. Et je sais dans mon cœur que ce n'est pas ta volonté non plus. Peut-être j'ai mal compris des choses. Peut-être il y a des choses que je n'étais pas capable de recevoir. Peut-être il y a des choses que je ne comprends pas. Mais une chose qui est sûre et certaine, et j'ai eu cette conversation et je dévoile mon cœur, je dis, Seigneur, une chose est certaine, que je ne vais jamais faire de compromis concernant ta parole. Ta parole dit telle chose, je vais continuer à prêcher ta parole. Plus que jamais auparavant, je vais prêcher que c'est ta volonté que ton peuple soit en bonne santé. Amen. Parce que on ne vit pas. On base notre foi pas sur les circonstances. On base pas notre foi sur les expériences d'autres personnes. On base pas notre foi sur nos propres expériences. Parce que nous sommes les êtres humains et notre visite sur la terre est passagère. Mais la parole de Dieu est éternelle. Et même si pour une raison quelconque, mon expérience passagère n'est pas en ligne avec la volonté parfaite de Dieu, ça ne changerait jamais sa parole. Amen. Donc, il faut regarder les promesses et tenir ferme. Et c'est ça. Mais gloire à Dieu, cette fois-ci, Michael fut ressuscité. Et Michael est en pleine forme. Amen. Mais, juste pour dire qu'on a besoin d'arriver à cette place où on ne se laisse pas influencer ou déranger. On fixe nos yeux sur la rémunération et on se tient ferme. Seigneur, ta parole dit, fin de l'histoire. Éclaire-moi, si j'ai besoin de plus de lumière, éclaire-moi. Mais je ne ferai jamais de compromis de ta parole. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je vais prêcher le salut. Si les personnes refusent de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur, est-ce que je vais changer ma doctrine? Non. Je vais toujours prêcher. Le Seigneur veut que tu sois sauvé. Il a donné son Fils pour toi. Si tu peux juste tout simplement invoquer le nom de l'Éternel, tu seras sauvé. Même si tout le monde rejette la parole, je vais continuer à prêcher la parole quand même, n'est-ce pas? Dieu est bon. Dieu est digne de confiance. La foi, c'est une ferme confiance. La foi, c'est une façon de posséder les choses, les promesses de Dieu déjà par avance. Et la foi, c'est d'être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. plus réel que mon expérience, plus vrai que mes évidences physiques. La parole éternelle de Dieu est établie pour toujours dans les cieux. Amen. Encore, je ne parle pas des choses bizarres. Je parle des choses qui sont écrites. Si vous pouvez trouver ces choses écrites, je ne parle pas juste d'un verset isolé, mais je parle des choses, comme Jésus dit, avec deux, trois témoins, on voit dans tout le conseil de Dieu, dans la parole dans son intégralité, on voit la volonté de Dieu révélée. On voit le cœur de Dieu, on voit sa volonté pour notre vie révélée. Toutes ces choses-là, je parle de ces choses-là, qui sont promises, qui nous appartiennent en Jésus-Christ, sont oui et amen. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est jamais une question de peut-être oui, peut-être non, peut-être une autre fois. Si Dieu l'a promis, c'est oui. Des fois, le Seigneur, si, vous savez, je veux juste dire cela. Juste au cas où il y avait un peu de confusion. Quand on parle de prier les choses, les prières de la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Il faut connaître la volonté de Dieu pour avoir la confiance que Dieu va faire cette chose. On ne peut pas juste inventer les choses qu'on veut. Il faut trouver qu'est-ce que Dieu nous a déjà promis. Amen. Il y a certains domaines, et là, on peut prier une prière de la foi. Il y a d'autres prières qu'on priait. Les prières de consécration, par exemple, où on ne sait pas c'est quoi la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que tu veux que j'aille en Chine? Et peut-être là, le Seigneur peut répondre, oui, c'est ma volonté, je veux que tu ailles en Chine. Ou il peut dire, non, ce n'est pas ma volonté, tu ne vas pas en Chine. Ou il peut dire, oui, c'est mon plan, mais ce n'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Donc, est-ce que vous avez entendu des personnes enseigner que quand on prie, des fois, le Seigneur va dire oui, des fois, il va dire non, des fois, il va dire plus tard ou attendre? Ça, c'est seulement vrai avec certains types de prières. Mais quand on parle de la prière de la foi, qui est basée sur une promesse que Dieu a déjà faite, c'est comme une personne qui dit, Seigneur, est-ce que tu veux que je sois sauvé, né de nouveau? Le Seigneur ne va jamais répondre, oui, non, toi, ce n'est pas pour toi le salut. Ou oui, je veux que tu sois sauvé, mais plus tard. Non, le Seigneur a promis le salut, on peut le recevoir maintenant. C'est une promesse, et c'est oui et amen. Et il y a d'autres promesses aussi dans la parole. Il s'agit juste d'aller les trouver. Amen. La foi, c'est une ferme confiance. Une façon de poser l'avance. Et la foi, c'est d'être absolument certain des choses qu'on ne voit pas. On se lève debout. Il est midi et le micro commence à lâcher. Alléluia. Merci Père Céleste. Donc, apprenons à voir les choses invisibles. À regarder les choses invisibles. Fixez vos yeux sur les choses invisibles. Vous vous rappelez que dans le désert, quand les enfants de Dieu s'est fait mordre des serpents venimeux, qu'est-ce que Dieu a demandé à Moïse à faire? C'était de faire un serpent en airain, n'est-ce pas? Sur un poteau. Intéressant. Aujourd'hui, on voit chez le médecin, quoi? Un serpent sur un poteau, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il faisait? Il élevait le serpent. Une personne qui était mordue était exposée de regarder et fixer ses yeux sur le serpent. Et il était guéri. Quand le serpent est en train de te mordre, ou quand tu as mal à cause d'une blessure que le serpent a, que tu as subi grâce à ce joli serpent, c'est difficile des fois de regarder Jésus. On est porté à regarder les blessures, n'est-ce pas? Aïe, ça fait mal. Mais Dieu a dit, non, lève tes yeux. Regarde pas les blessures, mais regarde la solution. Regarde pas le problème, mais regarde le remède. Amen. Le remède est invisible. Le problème est très visible. Et on a besoin de lever les yeux, fixer nos yeux sur l'invisible, de tenir ferme. Donc, Père, aide-nous à devenir des hommes et des femmes de la foi comme Abraham, qui marche par la foi et non par la vue. Seigneur, ma prière, c'est pour chacun de nous, ici présents, de devenir les hommes et les femmes de la foi. Ceux et celles qui croient à ta parole, plus qu'on croit à ce qu'on voit. Au nom précieux de Jésus. Amen. On va chanter un chant pour terminer. Le Seigneur est bon. Il est fidèle. N'oubliez pas ce soir, les groupes d'impact, mercredi soir, on est là pour l'étude biblique. Je vous aime. Tendiment, on va aller à la porte pour vous donner la main, mais reste pour le chant, faites le chant une fois, et pendant qu'on aille à la porte, et nous vous aimons.